Des poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Alors Thomas Reverdy, bonjour et merci de nous rencontrer à l'occasion de votre venue à la boîte à livres. Pour votre roman « Il était une ville » qui est sorti il y a quelques mois maintenant, si je ne m'abuse.
Oui, qui est sorti à la rentrée en début septembre 2015.
Alors, donc il était une ville, il était un roman, mais avant ce roman, avant ces mots, il y a eu des images, parce que je crois que vous vous êtes inspiré en fait à la base d'un recueil de photos. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et dire ce qui a déclenché en vous cette envie d'écrire ce livre sur Détroit donc ?
Oui, tout à fait. Moi, je n'avais de Détroit à l'origine qu'une image d'Épinal, la ville de l'automobile, des usines Ford, General Motors, le progrès, le XXe siècle, la vitesse, l'invention du frigidaire, les banlieues, les autoroutes. Enfin bon, tout ce mode de vie américain qu'on a fini par adopter petit à petit au cours du siècle. Et disons une image d'Épinal des années 50-60, quoi, au moment où tout va bien et où l'Amérique commence à exporter cette espèce de vision d'elle-même où tout le monde est heureux et tout le monde a une jolie voiture et tout le monde vit dans un beau pavillon de banlieue, etc. Et j'ai découvert en 2010 un livre de photos qui était réalisé par deux jeunes photographes français qui s'appellent Marchand et Meffre. Le livre a été publié chez Steidel. Qui s'appelle Les ruines de Détroit. Je crois que c'était une publication bilingue à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, donc c'était Ruins of Detroit ou Ruines de Détroit. Et bref, ça présentait des grandes photos au grand angle, donc assez larges comme ça, avec des vues de maisons en ruine, de maisons effondrées, de maisons brûlées, de centre-ville à l'abandon, sans âme qui vive, avec des immeubles vides. On voit le ciel à travers les immeubles parce qu'on voit d'une fenêtre à l'autre. Enfin, c'était absolument stupéfiant. Et surtout, ça donnait l'impression d'un univers de science-fiction, c'est-à-dire ça donnait un peu l'impression de la planète des singes quand ils redécouvrent la statue de la liberté, quoi. On avait l'impression de voir une grande ville américaine de chez nous, avec tous les signes de la croissance, du progrès, de l'économie, du bien-être, du confort, etc. Comme si on pouvait y revenir après la fin de notre propre civilisation. Donc c'était absolument stupéfiant, et surtout c'était déjà de la fiction en quelque sorte, ça donnait envie, parce que c'était comme si c'était un territoire de fiction, ça donnait envie d'y placer des personnages, de les suivre, de voir comment dans cet univers un peu déshumanisé, ils pouvaient malgré tout s'accrocher à des lambeaux de vie, d'histoire, de rencontres, d'amour, etc. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire en suivant mes personnages dans « Il était une ville ».
Du coup, cette ville, pour vous, c'est un petit peu une espèce de métaphore du monde moderne. C'est-à-dire qu'on est passé de la, comme vous disiez, la production à outrance, les usines automobiles, à une espèce de destruction. On voit un peu les ruines de notre propre civilisation. En fait, on les a sous les yeux.
Ouais, alors c'est pas qu'une métaphore, parce que dans le fond, à Détroit, ça a vraiment eu lieu. Enfin, je veux dire, on peut pas dire comme Alain Minc que la crise financière n'a pas vraiment existé, quoi. Il faut lui payer un voyage à Détroit, ce monsieur. Je veux dire, quand on va là-bas, on peut pas prétendre que ça n'a pas d'effet sur les gens, sur leur manière de vivre. Au moment où Lehman Brothers fait faillite, en fait, c'est des dizaines et des centaines de milliers d'habitants de Détroit qui se retrouvent à la rue, quoi. Qui perdent leur maison tout simplement parce que la banque récupère le prêt et que sans prêt, pas de maison, quoi. Et donc, la réalité est dure. Après, ce qui est un peu de l'ordre de la métaphore, c'est le côté... moi, j'en fais une espèce de conte de Noël avec des gens qui vont rester finalement dans cette ville. Et là, effectivement, plus qu'une métaphore, on pourrait dire que Détroit représente une espèce de, comment dire, de contre-utopie. Vous voyez, c'est-à-dire, ça a été une utopie pendant des années, justement, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, là, la vitesse, le progrès, l'économie, la croissance, etc. Et puis, pour les mêmes raisons, ça s'est effondré. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que pour les mêmes raisons de la déshumanisation introduite par le taylorisme, par le productivisme de notre mode de production, hein, depuis plus d'un siècle, depuis la fin du XVIIIe siècle, en fait, cette même déshumanisation qui, au départ, sert le confort, le progrès, le bien-être, peut servir le contraire. Parce que tout à coup, c'est moins cher d'aller produire la même chose en Chine, et donc on laisse tomber les gens, on part avec le travail, et tout à coup tout s'écroule. C'est ce qui s'est passé là-bas, quoi. Il y a une conjonction de phénomènes, à la fois l'industrie automobile qui bat de l'aile, les délocalisations d'entreprises, la désindustrialisation, et puis cette crise financière qui achève le désastre, quoi. Et donc c'est pas une métaphore, c'est vraiment ce qui se passe. Aux États-Unis, on dit de Détroit que c'est le canari dans la mine de charbon. Hein, c'est-à-dire c'est les mineurs partaient avec ils avaient des cages avec des canaris là quand ils descendaient, parce que le canari a des petits poumons, il est très sensible au gaz, et donc il va arrêter de respirer et il va mourir juste avant que ça devienne dangereux pour le mineur qui sait à ce moment-là qu'il faut qu'il remonte très très vite, le plus vite possible à la surface. Et voilà, Détroit, c'est la première grande métropole occidentale à faire faillite. C'est juste la première.
Et alors, je crois savoir que vous n'êtes pas allé à Détroit avant d'écrire ce roman. Alors pourquoi est-ce que vous avez voulu rester à distance comme ça de votre objet littéraire ?
Ah ben parce que la littérature, c'est la distance. Je veux dire par là que moi je suis resté à distance de Détroit. Bon gré mal gré, hein, c'est aussi parce que finalement, si j'avais pu organiser le voyage très très vite, trouver des gens qui habitaient encore là-bas, qui m'auraient hébergé, montré des trucs et tout ça, j'y serais sans doute allé. Bon, il se trouve que j'ai mis très longtemps à trouver des gens qui habitaient sur place, qui pouvaient me faire visiter et tout, et donc j'avais déjà écrit une bonne partie du roman. En fait, à ce moment-là, j'ai pas eu envie de m'interrompre. J'avais en partie imaginé, fantasmé un peu ces espaces vides à l'abandon, ce début d'hiver qui s'installe au fil du roman, et cette atmosphère particulière de cette ville moderne où l'éclairage public ne fonctionne plus, et qui donne comme ça une image un peu de ville fantôme. Et j'ai pas eu envie à ce moment-là d'aller vérifier tout de suite. J'y suis donc allé finalement après, comme une espèce de cadeau que je me faisais, d'avoir bien travaillé. La réalité, malheureusement, est toujours un peu plus molle que le roman. C'est-à-dire, dans le roman, justement, parce qu'il y a cette imagination, il y a cette espèce de... On expérimente à travers le roman des situations, des personnages, des manières de voir, etc. Et donc, moi, mes personnages, un ingénieur qui travaille dans l'automobile, qui a envie que ça marche, mais qui va s'apercevoir petit à petit qu'en fait, sa boîte le laisse tomber, et puis on sait plus ce qu'il fait là-bas, et puis lui-même comprend plus trop ce qu'il fait. Une serveuse dans un bar qui perd petit à petit ses clients, qui se demande elle aussi si elle n'est pas en train de passer à côté de sa vie, parce que bientôt elle pourra plus faire d'enfants, parce que est-ce que c'est trop tard, est-ce qu'à un moment on peut se dire qu'on est passé à côté, etc. Un gamin qui profite de la débâcle pour partir de chez lui et vivre une aventure dans des terrains vagues et tout ça avec des copains, tous ces gens que je suis là, c'est des gens qui restent, c'est des gens qui s'accrochent, et finalement l'enjeu, si on doit tirer une leçon un peu du roman, enfin, ou en tout cas celle que je pourrais tirer après l'avoir écrit, finalement, l'enjeu c'était de montrer ce qui résiste en eux d'humain lorsque tout s'écroule autour d'eux, quoi. Et c'était un peu ça l'obsession sur chaque personnage, finalement, de voir comment il va réussir à redonner du sens à sa présence là, à ce qu'il est en train de faire, à ses rencontres avec les gens, etc. Comment est-ce que quelque chose en lui de digne et de libre, et qu'on appelle l'humanité, va être capable de résister à tout.
Alors, avant ce roman, vous avez déjà évoqué le 11 septembre, ou encore Fukushima, dans vos romans. Moi, votre roman m'a aussi évoqué, par exemple, les images qu'on a pu voir après Katrina, effectivement, le même abandon un peu de la population, les maisons complètement, enfin, une espèce d'apocalypse comme ça sur Terre. Et est-ce que vous considérez un peu, en tant qu'écrivain, comme une espèce de témoin d'un monde qui se noie ?
Alors, de témoin, je le souhaite pas, hein, je le souhaite pas pour le monde, bien sûr. Cela dit, on peut pas faire semblant de ne pas voir qu'on vit une époque très troublée et dans laquelle, dans laquelle en plus, on se sent tout petit. C'est-à-dire, je crois qu'on a passé aussi la période finalement des grands romans héroïques, nationaux, ou alors même des romans réalistes où il y a un personnage principal avec qui va vivre son aventure, son espèce de quête, avec des personnages secondaires qui vont soit l'aider, soit lui mettre des bâtons dans les roues, etc. Et là, on arrive à, voilà, à quelque chose de tout à fait nouveau aujourd'hui, qui la plupart du temps d'ailleurs nous désoriente à titre individuel, qui est cette espèce de fondu dans la mondialisation, dans quelque chose qui dépasse les nations, qui dépasse les calculs des entreprises, qui dépasse le sens qu'on met à réaliser quelque chose dans le cadre de son travail, parce qu'en fait, les boîtes réalisent leurs profits en bourse et plus en fabriquant des voitures, parce que les États prennent des décisions qui dépendent d'intérêts, qui sont plus tout à fait toujours rationnels. Et tout ça à la fois nous dépasse, et en même temps, il faut bien qu'on continue à vivre. Et donc le roman, il est là aussi pour nous montrer des personnages mis à égalité, tous sur le même plan, qui sont tous des personnages principaux, en quelque sorte, et qui voient tous cette espèce de chose complexe qu'est notre modernité depuis leur pas de porte, leur lorgnette, en comprenant pas tout, mais en nous montrant quand même un angle. Hein, et puis l'addition de ces différents personnages nous permet de composer quand même une image, de se représenter un peu mieux ce qui se passe dans notre monde. C'est particulièrement vrai avec, par exemple, la crise financière. Hein. On nous rabat les oreilles avec la crise de la dette, et donc la dette de la Grèce, par exemple. Pendant tout l'été, on a entendu parler de la Grèce. 300 milliards d'euros. Moi, je ne sais pas du tout ce que ça fait, 300 milliards d'euros. Ce que ça représente. Je veux dire, combien il faut mettre de maisons bout à bout pour représenter 300 milliards d'euros ou de voitures. Ça ne veut rien dire. Et donc voilà, on est dans une époque où on produit des chiffres qui nous laissent froid parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce qu'il est représenté. Alors peut-être le roman a de nouveau un rôle à jouer aujourd'hui en nous présentant comme ça des personnages qui vivent ça avec le même désarroi que nous, mais qui le vivent, éventuellement quand même un peu courageusement, et qui vont nous permettre de nous le représenter un peu mieux.
Donc en fait, vous remettez l'humain au cœur de votre roman, et ces différents personnages vous permettent aussi d'aborder plusieurs styles d'écriture, c'est-à-dire que vous juxtaposez, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a une espèce de mosaïque de style avec un roman d'amour entre donc un des personnages et la serveuse dont vous parliez tout à l'heure, un roman social, un roman d'aventure, ce que ça peut évoquer. Moi, je pensais à L'île des enfants perdus de Peter Pan ou Tom Sawyer. Donc comment est-ce qu'au moment de l'écriture vous avez réussi à équilibrer tout ça?
Ah, ça c'est la magie, si on veut croire à la magie, mais c'est la difficulté, sinon au jour le jour. Hein, effectivement, à partir du moment où on crée comme ça plusieurs personnages, qui sont autant de manières de voir la grand-mère qui élève le petit garçon qui décide de fuguer, elle a connu un autre état de la ville, elle a été témoin de l'apogée de Détroit, et donc elle a l'impression d'une espèce de malédiction divine qui s'abat sur les habitants. Le gamin, lui, il a aucune conscience de ce qui est en train de se passer, il part vivre ses aventures, il s'amuse simplement avec ses copains dans un espèce de terrain vague, alors sauf que le terrain vague d'aujourd'hui, il devient dangereux parce qu'il y a des gangsters, parce qu'il y a de la drogue qui circule, etc. Le vieux flic, il essaye de tenir les murs, mais en fait il sait qu'il va pas sauver la ville, mais il s'acharne parce qu'il se dit que s'il continue à faire son boulot, peut-être à sauver un gamin, et ben en fait ça sera toujours ça, d'arracher au néant. Etc. Et chaque personnage est comme ça, dans une espèce de... Il a sa ligne de destin, quoi. Il a sa ligne de vie, et ils sont un petit peu en aveugle les uns des autres. Ils se connaissent pas forcément. Ils vivent les uns à côté des autres. Bon, mais finalement, c'est ce qu'on fait, nous. Enfin, c'est ce qui nous arrive tous les jours. Moi, je connais pas le Bon, je vis à Paris, je connais pas le prénom de tous mes voisins dans mon immeuble. Je leur dis bonjour, hein, parce que je suis poli, mais je veux dire, je connais pas leur vie, je connais pas leurs problèmes, leurs peurs, leurs désirs. Bon, et pourtant, on vit tous là dans le même immeuble. C'est le côté Pérec, là, la vie mode d'emploi. Ils sont tous dans le même immeuble et en fait, ils vivent tous en aveugle les uns des autres. Et pourtant, chacun vit une vie qui a à voir avec celle des autres, parce qu'on habite tous le même monde.
Et puis, il y a des rencontres, finalement.
Et puis, il y a des rencontres. Il y a des rencontres. Alors, notamment, il y a l'amour. Mais l'amour, c'est magique, parce que... là, pour le coup, c'est magique. C'est-à-dire, à partir du moment où l'ingénieur rencontre cette serveuse qui lui semble magique, d'ailleurs, hein, de par ça... sa beauté, sa façon de bouger, il y a une vraie rencontre là. Mais ce qui se passe dans le fond quand il rencontre cette femme, c'est que il s'aperçoit qu'elle existe puisqu'il l'aime. Et si elle existe, c'est que peut-être lui il existe aussi. Hein, c'est évidemment l'amour. Parce que l'amour nous fait prendre conscience de l'autre, et en même temps, dans le fait qu'il est complètement autre, l'amour nous fait aussi prendre conscience qu'on est nous-mêmes, qu'on peut résister, qu'on est humain, qu'on est libre, qu'on est digne de sentiments, de vivre quelque chose, de donner du sens à sa vie. Et voilà, c'est ça qui va lui donner de l'énergie, quoi.
Et pour rester dans cet espoir dont vous parlez, est-ce qu'on peut finalement dire que Détroit, aujourd'hui, est aussi un endroit qui permet peut-être de reconstruire un autre monde? Alors par exemple, il y a des résidences d'artistes, hein, qui sont faites à Détroit en ce moment pour encourager effectivement des auteurs, des peintres, des sculpteurs à venir s'installer dans ces maisons abandonnées. Et alors pour malheureusement faire résonance avec les attentats de la semaine dernière, une des victimes, j'ai lu, travaillait justement pour son sujet de thèse sur Détroit. Et son idée, c'était de récupérer les terrains vagues pour en faire des jardins. Et alors, j'ai lu une phrase d'un de ses amis qui m'a fait penser finalement à votre livre. Il disait « Le cœur de son travail, c'était que toute situation hostile porte en elle les germes d'une hospitalité. » Alors, est-ce que quelque part, ça n'entre pas en résonance avec ce que vous dites dans votre roman ?
Bien sûr. Et que aussi cette situation d'anonymat et d'abandon relatif, de solitude dans laquelle se trouve chacun de nous ou chacun des personnages du roman... contient le germe d'une nouvelle fraternité aussi. Hein, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, tous, nous sommes seuls et un peu désorientés. Le sens de nos vies passe évidemment par le fait de se retrouver aussi, de se reconnaître dans l'autre qui est aussi seul et désorienté que nous.
Alors, je crois que vous êtes professeur en lycée, et j'ai vu que vous étiez sur la liste du Goncourt des lycéens, alors dont ça devait être annoncé la semaine dernière, et je crois que ça a été repoussé aussi en raison des attentats. Donc, en tant que professeur, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre livre parle comme ça à ces générations ?
Oh, d'abord, moi, j'ai aucun doute sur le fait que les jeunes savent lire. Je veux dire, les enfants continuent de réclamer des histoires le soir, et puis même, à la limite, le goût pour le cinéma ou les séries télévisées, etc., continue d'être un goût pour la fiction, le fait de s'entendre raconter des histoires. J'ai pas trop d'inquiétude sur les jeunes et la lecture. Hein. Simplement, ils se tournent plus volontiers vers des littératures de genre, la fantasy, la science-fiction, etc. Et je trouve que c'est très bien, par exemple, l'initiative du Goncourt des lycéens, ou toute initiative allant dans ce sens, en fait, de leur faire découvrir que la littérature que nous, on appelle générale, peut leur parler aussi. Mais quand on parle de la crise de la lecture ou tout ça, je pense pas du tout aux jeunes. Hein. Je pense plutôt que c'est plutôt leurs parents qui ont arrêté de lire, en fait. Hein.
Pour terminer, ce qu'on est sur une radio musicale, donc Détroit, c'est aussi quand même la ville de la musique, Hitsville. Et alors, si vous deviez nous donner un titre pour illustrer un peu votre roman, je sais c'est dur hein, comme choix.
Ouais, c'est dur.
De quoi, enfin, je vous laisse quand même quelques secondes au moins pour réfléchir.
C'est dur. Un titre qui serait présent dans le roman, ce serait My Girl, hein, mais sinon un titre qui illustrerait un peu ce disons le climat social de Détroit. Il y a tellement de choses qui viennent de Détroit, même encore aujourd'hui, les White Stripes, Eminem, de l'électro, hein, de David Craig. Peut-être Eminem quand même avec 8 Miles, parce que d'abord c'est connu, et puis ça a donné naissance à un film aussi, donc c'est à la fois une BO et un film. Et ça raconte assez bien quand même ce climat dans lequel lui a grandi, hein, et qui a donné naissance à cette espèce de rap blanc un peu énervé, caractéristique de sa musique là, et qui pouvait d'une certaine manière ne naître que là, quoi.
Bah écoutez, promis, juste après votre voix, on entendra Eminem alors à la radio. Merci beaucoup Thomas Reverdy, je vous laisse partir, parce que je crois qu'on vous attend de l'autre côté. Merci, au revoir.
Merci beaucoup, merci à vous.
I'm feeling a little skeptical who I hang out with. I look like trying to travel this road. Plus I feel like I'm always stuck in this battling mode. My defenses are so up, and one thing I don't want is pity from no one. The city is no fun, there is no sun, and it's so dark. Sometimes I feel like I'm just being pulled apart from each one of my limbs, by each one of my friends. It's enough to just make me wanna jump out of my skin. Sometimes I feel like a robot, sometimes I just know not what I'm doing. I just blow, my head is a stovetop. I just explode, the kettle gets so hot. Sometimes my mouth just overloads the gas that I don't got. But I've learned, it's time for me to U-turn. Yo, it only takes one time for me to get burned. Ain't no falling on next time, I'll meet a new girl. I can no longer play stupid and be immature. I got every ingredient, all I need is the courage. Like I already got the beat, all I need is the words. Got the urge, suddenly it's a surge. Suddenly a new burst of energy has occurred. Time to show these free world leaders a three and a third. I am no longer scared now, I'm free as a bird. Then I turn and cross over the median curve. Hit the burbs and all you see is a blur. On 8 Mile Road, I'm a man, gotta make a new plan. Time for me to just stand up and travel new land. Time for me to just take matters into my own hands. Once I'm over these tracks, man, I'ma never look back. And I'm going, I know right where I'm going. Sorry mama, I'm grown, I must travel alone. Ain't gonna follow no footsteps, I'm making my own. Only way that I know how to escape from this 8 Mile Road.
C'était l'interview des poches sous les yeux en partenariat avec la boîte à livres. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessousleyeux.fr ou encore la page Facebook des poches sous les yeux.